La propagande, à mon sens, désigne toute stratégie ou toute tactique de communication qui vise à influencer les opinions, les attitudes, les comportements et les conduites des individus. Elle est, à mon sens, une science appliquée, c'est-à-dire qu'elle vise à la réalisation d'un objectif pratique en tirant profit des sciences sociales, des sciences cognitives, des sciences en général. L'objectif visé, cet objectif pratique, peut être de convaincre ou de dissuader d'agir dans un sens donné, voter, manifester, acheter, ou plus largement, il peut être de conduire les individus à se conformer à une certaine vision du monde ou à certaines normes de comportement en société. Donc c'est une définition extrêmement large, mais qui en même temps a le mérite, à mon sens, de donner une certaine clarté à ce qu'est la propagande, c'est-à-dire fondamentalement une activité de communication qui consiste, pour des agents publics ou des agents privés, à tirer profit de techniques qui ont fait leur preuve pour obtenir le consentement d'individus à une réforme, un vote en faveur de tel ou tel candidat, d'obtenir un clic, des achats, etc. Nous sommes entrés dans l'âge de la propagande totale. C'est la thèse que je développe dans le livre dont vous avez parlé, Propagande, et c'est le titre de la conclusion du livre. J'aurai l'occasion ce soir de développer un peu cet aspect davantage encore que dans le livre. Si nous sommes entrés dans l'âge de la propagande totale, à mon sens, c'est pour trois raisons. La première, c'est que nous ne pouvons plus échapper à la propagande dès lors que toutes les études indiquent que nous passons chaque jour, d'année en année, davantage de temps devant les écrans. Nous passons d'ailleurs souvent beaucoup de temps devant plusieurs écrans à la fois. Quiconque n'a pas regardé la télévision avec un smartphone ou un ordinateur portable sur les genoux peut me lancer la première pierre. Et la deuxième raison est que cette propagande est de plus en plus efficace car elle s'appuie sur des données considérables. Pour aller vite, c'est ce que l'on appelle communément le big data, c'est-à-dire l'ensemble de nos traces numériques et ces traces qui sont innombrables et d'autant plus importantes qu'à l'heure où je vous parle, il y a davantage d'objets connectés sur la planète Terre que d'individus. Nous avons dépassé le cap des 7 milliards d'objets connectés et cela va aller croissant. Chacun de ces objets connectés est l'occasion de transmettre des traces numériques qui font l'objet d'une exploitation globale puisque les capacités de traitement des ordinateurs permettent désormais non plus d'aller chercher une aiguille dans la botte de foin mais de ramasser toutes les bottes de foin, les mettre dans un coin pour le jour où on pourrait avoir à y chercher une aiguille ou toute autre chose. Donc cela conduit au fond à ce que, selon la formule de Dugain et Labbé, nous soyons nus dans la mesure où rien n'échappe désormais à cette collecte d'informations sur le numérique. L'efficacité réside également dans le fait que les progrès des sciences cognitives, les progrès des neurosciences ont été considérables, en particulier depuis le début des années 2000 et la mise au point de l'imagerie cérébrale, les mobiles des individus qui au XXe siècle avaient fait l'objet d'innombrables recherches de tous les chercheurs des services de renseignement du monde entier, ces mobiles des individus sont désormais beaucoup mieux connus. De sorte que l'alliance entre l'exploitation des données, des traces que nous laissons sur Internet et ces progrès de la science ouvre la voie à une propagande de plus en plus efficace, comme l'a illustré en 2016 l'exemple de Cambridge Analytica, qui grâce au Big Data a identifié trois États des États-Unis susceptibles de basculer du camp démocrate au camp républicain, la Pennsylvanie, le Wisconsin et le Michigan, et grâce à des données collectées sur les mobiles des individus et certains profils d'individus, il a été possible de cibler les électeurs démocrates traditionnels, par ailleurs porteurs d'armes, pour leur faire parvenir via Facebook ce que l'on appelle des dark posts, c'est-à-dire des publicités ciblées visibles uniquement de l'utilisateur, ce message sur le thème « Saviez-vous que Hillary Clinton voulait prendre votre arme à feu ?» L'objectif ici, qui a été en partie atteint, était de dissuader quelques dizaines de milliers d'électeurs démocrates de se rendre aux urnes. Et cela a contribué au basculement de ces trois États et à l'élection d'un président qui, comme vous le savez, a perdu l'élection, pourtant, de 3 millions de voix, enfin, perdu le vote populaire avec 3 millions de voix. Dernière raison pour laquelle nous sommes entrés dans la propagande totale, cette propagande est de plus en plus automatisée. Elle est automatisée car les progrès de l'intelligence artificielle, les progrès du numérique de façon générale permettent une automatisation croissante de ces dispositifs. Il faut que vous ayez à l'esprit, par exemple, qu'aujourd'hui, la part du trafic non humain sur Internet dans le monde est estimée à environ 40%. D'ici quelques années, il y aura davantage de trafic Internet non humain, c'est-à-dire généré par des robots et des systèmes d'intelligence artificielle, que par des humains. Et cela pose naturellement un certain nombre de questions. Maintenant, pour ce soir, qu'est-ce que nous allons étudier ensemble? Je voudrais considérer avec vous le fait que la propagande est fondamentalement le produit d'un système technicien. C'est Jacques Ellul, dans les années 60, qui l'avait formulé le mieux, comme vous le voyez ici, dans son ouvrage « Propagande ». Au fond, avant Marshall McLuhan, il avait perçu le fait que le système technicien était en soi porteur de valeurs, porteur de techniques, porteur d'effets qui sont en quelque sorte intrinsèques. Et je voudrais appliquer cette grille de lecture au numérique d'aujourd'hui en vous exposant un certain nombre de caractéristiques du système numérique et en vous montrant comment ces caractéristiques sont exploitées par les propagandistes à des fins de manipulation. Ces caractéristiques, je les ai énoncées sous forme de paradoxes. Premier paradoxe, plus le marché cognitif est étendu, plus notre champ cognitif se réduit. Par marché cognitif, j'entends un peu plus largement que Gérald Bronner, la masse de connaissances à notre portée grâce à Internet. Par champ cognitif, j'entends les connaissances qui sont effectivement à notre portée et que nous utilisons au quotidien. C'est un paradoxe, mais qui a été mis en évidence par une des études que je trouve les plus fascinantes de ces dernières années, que vous voyez ici, une étude de James Evans, qui porte, accrochez-vous bien, sur 34 millions d'articles scientifiques publiés entre 1945 et 2005. Il est allé chercher dans ces millions, dans ces dizaines de millions d'articles scientifiques, les citations de ces articles. Et qu'a-t-il constaté? Que depuis Internet, les scientifiques citent moins d'articles qu'avant Internet. Nous avons toujours cru qu'Internet allait élargir nos horizons intellectuels, qu'Internet nous offrait des horizons infinis de connaissances. Et nous constatons qu'en réalité, nous n'allons pas exploiter ces connaissances. Et nous nous contentons souvent de peu. Et je vais expliquer dans un instant pourquoi. Je vais m'efforcer d'expliquer pourquoi. On pourrait, avec Walter Lippmann, l'inventeur du mot stéréotype, de l'expression guerre froide notamment, et de la fabrique du consentement, on pourrait dire qu'au fond, cela tient à la complexité du monde qui résulte de l'accès à des connaissances infinies. Nous avons maintenant une masse d'informations telle que le monde nous est apparu extraordinairement complexe. Or, l'être humain a besoin de simplicité. Nous pourrions dire, avec Jacques Ellul, que cela nous conduit à privilégier une image globale, effectivement, et une image stéréotypée. Nous pourrions aussi considérer, avec les historiens des médias, que cela consacre, au fond, la fin des gatekeepers. Il y avait des portiers de l'information. Il y avait, à la fin du XIXe siècle, au XXe siècle, des éditeurs, des journalistes, des scientifiques qui hiérarchisaient l'information et nous indiquaient, portaient à la connaissance du public l'information la plus importante. Et Internet a fait s'écrouler, comme un château de cartes, ce système de hiérarchie de l'information au profit d'autres formes de hiérarchie, en l'occurrence cette hiérarchie qui est une hiérarchie qui repose sur la personnalisation de l'offre. Ce que un sociologue de la télévision comme Jean-Louis Misica a montré dans un ouvrage d'il y a une dizaine d'années où il a inventé la notion de post-télévision délinéarisée. Plus personne, pratiquement, enfin, dans les jeunes générations, ne s'assied devant un écran de télévision pendant des heures en se demandant ce qu'il va regarder. On regarde la télévision sur nos écrans et on cherche un programme en particulier de sorte que l'on trouve un programme personnalisé. On pourrait suivre l'explication qui est celle de Paul Lazarsfeld, le grand sociologue Paul Lazarsfeld, d'origine autrichienne, qui a montré dans les années 40 que l'une des grandes caractéristiques de l'accès à l'information était l'exposition sélective. Nous nous exposons préféremment à des informations qui confirment nos opinions préétablies sur des choses qui ont de l'importance pour nous. Et lorsque les choses n'ont pas d'importance pour nous, nous nous fions volontiers, a encore montré Paul Lazarsfeld, à des leaders d'opinion, des key opinion leaders, selon la formule de Lazarsfeld. Chose dont on a vu la manifestation de façon magistrale l'an dernier, avec ce fameux Fire Festival qui a donné lieu à deux documentaires, l'un sur Netflix et l'autre, je crois, sur Amazon. C'est-à-dire un festival qui n'a jamais eu lieu, mais qui a été une sensation extraordinaire grâce au travail d'un petit groupe d'influenceurs qui ont réussi à créer à partir de rien quelque chose qui apparaissait comme le plus grand festival que la planète ait jamais porté. Nous vivons à l'ère de ce que l'on appelle désormais les influenceurs, et nous vivons au fond à l'ère de ce que... Baptiste Costras, dans un livre récent, Les voies du web, de ce qui correspond à une nouvelle forme d'énonciation de l'opinion. Pendant longtemps, le régime d'énonciation de l'opinion, ce fut le sondage, c'est-à-dire une quantification de l'opinion. Nous revenons aujourd'hui à la forme antérieure d'énonciation de l'opinion, lorsque, au XIXe siècle, on se fiait à des leaders d'opinion. Les leaders d'opinion du XIXe siècle étaient des notables. Les leaders d'opinion du XXIe siècle sont ce que l'on appelle des YouTubers, qui attirent des foules absolument gigantesques que n'importe quel auteur de livre rêverait d'attirer dans un... C'est impossible, il faut être sur YouTube. Bref. Les cognitivistes nous diront qu'il y a une surcharge cognitive lorsque nous sommes confrontés à une trop grande masse d'informations, que le numérique nous distrait, etc. C'est, bon. Les psychologues sociaux parleront du grégarisme, parleront du conformisme social. Pour ma part, il y a une explication qui me paraît peut-être plus intéressante que les autres, qui est celle de l'effet de popularité. Nous sommes sensibles à ce qui est populaire. Lorsque nous choisissons un restaurant, nous le choisissons en fonction... Ben, on marche dans la rue, à Caen, on cherche un endroit, je cherchais un café tout à l'heure, on cherche un café, on va préférément dans un café où il y a déjà du monde. Bon. On est comme ça. Quand on cherche une chambre d'hôte sur Internet, on va préférément choisir une chambre d'hôte qui a déjà des appréciations positives. Et quand je recrute une babysitter pour mes enfants, je fais la même chose. Je prends une babysitter qui a déjà plein de recommandations positives de familles qui l'ont employée. Cet effet de popularité a été mesuré dans cette étude extraordinaire de Matthew Sagalnik. Il a créé de toutes pièces un marché artificiel de musique sur Internet. Il a constitué un groupe témoin, il a constitué deux groupes tests. Et sur ces groupes tests, il appliquait tantôt... Il appliquait deux protocoles. Premier groupe test, il leur demandait d'écouter les morceaux de musique que personne n'avait écoutés auparavant, tout neuf, et de les classer par ordre de préférence. Deuxième groupe test, il demandait la même chose, mais il ajoutait un petit sondage qui apparaissait en direct sur la page et qui permettait de voir les choix qui avaient été faits auparavant par ceux qui avaient déjà répondu au sondage. Dans le cas où c'était à l'aveugle, aucun titre ne ressortait. Fonction de la qualité, etc., les choix se dispersaient de façon à un beau nuage de points, très élargi. Dans le cas où le sondage était là, à chaque fois, vous m'entendez, à chaque fois, il y a un titre qui grimpait tout en haut. Et c'était jamais le même. Jamais le même titre. C'est-à-dire que c'était indifférent à la qualité du morceau. C'est l'effet de popularité. Et cet effet de popularité a été mesuré à de nombreuses reprises. Je n'ai pas le temps de vous donner d'autres exemples. Je voudrais... Il y a aussi ce que l'on appelle l'effet Shazam, j'en parlerai pas. Qu'en font les propagandistes? Première technique majeure des propagandistes, agir sur la popularité des contenus. C'est notamment ce que Fabrice Eppelboin a appelé l'astroturfing, un terme qui fait écho à cette pelouse artificielle fabriquée par Monsanto, l'astroturf, et l'astroturfing désigne le fait de donner la fausse impression sur Internet d'un mouvement citoyen. Bon. Il suffit, par exemple, pour des robots russes de faire monter la popularité d'une vidéo, disons au hasard une vidéo de Gilets jaunes, pour qu'elle affiche plusieurs millions de vues en l'espace de 24 heures. Bon. C'est un exemple parmi d'autres. Il faut savoir qu'un régime comme la Chine emploie 280 000 personnes pour faire ce travail manuel pour l'instant, qui consiste à faire valoir des contenus ou à étouffer d'autres contenus. J'y reviendrai. Et c'est généralisé dans le domaine du marketing. Toutes les enquêtes en ligne se prêtent à ce type d'opération. Autre technique, la saturation du marché informationnel. Cela consiste à noyer une information négative pour l'entreprise ou pour un pays sous un flot d'informations positives. C'est ce que font au quotidien les employés de la Water Army chinoise qui sont payés aux commentaires. C'est mené à grande échelle par d'autres. Je n'ai pas le temps de développer davantage. C'est ce que l'on appelle généralement le data smog, ce brouillard de données qui permet précisément de noyer l'information qui dérange. Lorsque les propagandistes veulent contester une vérité scientifiquement établie, là, il s'agit d'encourager un relativisme en faisant valoir sur le marché cognitif des informations qui relativisent l'information gênante. Exemple, lorsque un consensus scientifique s'est formé sur l'origine anthropique, sur l'origine humaine du réchauffement climatique, les grandes firmes les plus polluantes de la planète se sont unies, ont uni leurs efforts de communication, ont dépensé des dizaines de millions de dollars pour faire valoir, dans l'espace numérique et dans l'espace réel, des points de vue différents, de sorte de nous faire considérer qu'il y avait débat scientifique, là où, de fait, il y a consensus. Autre technique, la plus effrayante peut-être, celle qui consiste à abattre le mur entre la réalité et la fiction. Ce sont trois très beaux visages que vous voyez ici de personnes qui n'existent pas, puisque ces visages ont été générés par un système d'intelligence artificielle, c'est il y a quelques semaines à peine. C'est ce que l'on appelle le deepfake. Vous en avez de nombreux exemples. Ici, vous voyez comment l'intelligence artificielle permet de transformer cette photo ratée à droite en une photo parfaitement réussie sur la base de la reconstruction complète d'une réalité et au risque d'une déformation. Une étude a montré que pour influencer le vote des électeurs, il suffisait de procéder à un morphing du visage du candidat pour y intégrer certains des traits de l'électeur en question. Rien n'est plus simple que de trouver une photographie de vous et moi, si vous êtes comme moi sur Facebook ou sur Twitter, et d'y appliquer ces traits par morphing, sachant que la personnalisation de l'iconographie des pages qui nous sont présentées est de plus en plus fréquente. Les grands journaux, y compris le New York Times, s'y sont mis. Le même article, avec le même contenu, est doté d'un titre et d'une iconographie différente selon que vous êtes enregistré comme démocrate ou enregistré comme républicain ou comme indépendant, puisqu'aux États-Unis, vous déclarez vos appartenances partisanes. Ce deepfake est appelé à connaître un développement très grand. Wired a révélé récemment que des chercheurs avaient mis au point une intelligence artificielle capable de tellement bien générer des textes qu'ils ne veulent pas diffuser. Ils ne veulent pas que leur générateur de texte se retrouve entre de mauvaises mains. Voilà ce premier paradoxe. Deuxième paradoxe, plus nous sommes connectés au reste du monde et plus nous nous replions sur nous-mêmes. Internet portait la promesse de connecter les gens et de rendre le monde meilleur par un rapprochement des individus entre eux. J'évoque cet article qui est celui de l'inventeur de la notion de réseau social, Barnes, en 1954. On connaît le problème du petit monde, qui a notamment été étudié par Stanley Milgram dans les années 60. Combien de liens nous séparent des individus dans le monde? Et aujourd'hui, Facebook, à la différence de Milgram, qui avait eu énormément de mal. Il avait travaillé avec des dossiers qu'il fallait envoyer par courrier à quelqu'un à Boston, etc., pendant des mois. Toute sa recherche était consacrée à ça. Facebook, qui est la plus grande base de données comportementales du monde, et même la plus grande base de données au monde, tout court, avec 2,3 milliards d'inscrits, Facebook génère en 24 heures des données qui nous apprennent qu'il y a 3 degrés et demi de séparation entre nous et n'importe quelle autre personne sur la planète. Ce qui sert la communication de Facebook, puisque naturellement Facebook se vante de rapprocher le monde. Mais est-ce que Facebook rapproche vraiment le monde ? Est-ce que Facebook a contribué à l'apaisement des conflits ? Est-ce que Facebook a participé de l'apaisement des sociétés ? Force est de constater qu'on peut en douter. S'exerce en effet tout d'abord ce que l'on appelle depuis l'iPariseur la bulle de filtre, à savoir la personnalisation de l'information produite par des algorithmes de personnalisation qui dépendent de nos activités, de nos actions, de nos partages, de nos likes et de nos profils sur Internet, qui nous conduit, du point de vue d'Eli Pariser, à nous endoctriner avec nos propres opinions, puisque dès lors que nous n'avons que des amis démocrates aux États-Unis, nous n'avons que des contenus démocrates. Bon. Cette bulle de filtre, de mon point de vue, tend de plus en plus à être une bulle de filtre cybernétique. J'entends par là qu'elle repose sur des boucles de rétroaction, ces boucles de rétroaction qui voient les données agrégées qui sont filtrées par les algorithmes générer elles-mêmes un biais. Lorsque vous envoyez des policiers dans une banlieue pauvre pour faire des contrôles d'identité à la recherche de délinquants, vous trouvez des choses. Si vous faites la même chose dans le 16e arrondissement de Paris, vous trouverez des choses. Mais dès lors qu'on le fait dans un quartier pauvre, les données générées par les enquêtes de police dans ce quartier légitiment en quelque sorte le fait que l'on est cherché dans le quartier pauvre et encourage la police à accroître son effort en direction de ce quartier. C'est ce que dénonce Cathy O'Neill dans son ouvrage « Weapons of Mass Destruction », ce jeu de mots qui a été très mal traduit dans son édition française, mais alors, enfin qui n'a pas été traduit dans l'édition française, et qu'elle applique à tout un tas de domaines. Nous sommes entrés aussi, selon la formule de Frank Pasquale, dans la société de la boîte noire, « Black Box Society », car ces algorithmes, celui de Google, celui de Facebook, sont des propriétés industrielles, ce sont des secrets industriel. Il est absolument impossible d'accéder à leur contenu. Ce qui est un problème absolument majeur dès lors que notre accès à l'information tend de plus en plus à être conditionné par ces grandes plateformes. Savez-vous quelle est la part des recherches sur Internet réalisées en France sur Google ? Plus de 90% des recherches, entre 90 et 95% des recherches sont réalisées sur Google. C'est-à-dire que Google a un quasi-monopole sur la recherche d'informations en France. Facebook et Google et Twitter sont la porte d'entrée d'une grande majorité des plus jeunes générations aux États-Unis et de plus en plus en Europe d'accès à l'information. C'est-à-dire que le filtre des algorithmes joue à plein sans que cette question ne soit posée. Or, un certain nombre d'études sont particulièrement inquiétantes sur ce point, notamment cette étude très sérieuse qui a été réalisée sur la question de l'impact des algorithmes de Google, pour ne pas le citer, sur les résultats électoraux. Cette étude, menée en Australie, a montré que les résultats de recherche, lorsqu'ils étaient biaisés, pouvait altérer de 37% les résultats d'une élection. Le problème pour nous, qui est un problème démocratique majeur, c'est que personne n'est en capacité de s'assurer qu'il n'y a pas eu de biais. Tout ce que nous avons, c'est la confiance en Google. Et la force de Google, ce qui a fait sa richesse, c'est précisément que cette entreprise a su bâtir une relation de confiance avec nous, a su bâtir une image qui était celle d'une neutralité parfaite. Or, cette neutralité ne peut pas exister. Elle pouvait à la rigueur exister lorsque son algorithme reposait sur 3 critères. À l'heure où je vous parle, cet algorithme repose sur 10 000 critères de personnalisation, de sorte que personne opérant la même demande ne peut obtenir les mêmes résultats sur Google. J'ajoute enfin que la bulle de filtre peut être structurelle. Les géants d'Internet se sont employés à généraliser l'accès à Internet, notamment en Afrique, en Inde, etc. Les offres qui sont proposées sont des offres gratuites et basiques, selon l'expression de Facebook. Autrement dit, on n'accède pas à Internet, et on n'accède pas à la faculté, on est en Afrique, on n'accède pas à la faculté d'accéder à tout Internet, mais simplement à une offre très réduite, dont vous avez la liste ici, offre qui contient, bien évidemment, en priorité, les services offerts par Facebook. Google fait de même. Nous avons une autre forme de bulle qui se constitue avec les objets connectés. Pendant très longtemps, notre interface avec la machine a été le corps humain, la main. De plus en plus, notre interface tend à être la voix avec ses assistants vocaux. Or, lorsque nous demandons, par exemple, à Alexa de nous commander telle ou telle chose sur Internet, Alexa va aller chercher ce qu'elle a été programmée pour aller chercher, c'est-à-dire de préférence les services qui sont partenaires de Google. Même chose, Alexa, Amazon, tout Jarvis, tous les assistants personnels sont au fond des outils, des entonnoirs qui referment l'étendue de nos choix en masquant par ailleurs à nos yeux la dimension mercantile et l'arrière-cour qui est la leur. Il faut considérer bien évidemment aussi la fin de la neutralité du net qui a été consacrée aux États-Unis, même si les effets ne se font pas encore sentir. Ils se font sentir dans un pays comme le Portugal, vous le voyez, c'est-à-dire très concrètement que vous ne prenez plus un abonnement à Internet avec la possibilité ensuite de choisir à quel site vous accédez, mais vous prenez un abonnement avec un accès à un certain nombre d'offres réduites. Par exemple, si vous voulez consommer Netflix, qui prend beaucoup de bandes passantes, eh bien vous devez payer plus cher, et à ce moment-là, cela ne permet plus un égal accès à tous. Au passage, je précise que la bulle de filtre ne concerne pas uniquement Google, Facebook, Twitter. Il a été récemment montré avec force de conviction que cela concerne aussi YouTube, que cela concerne aussi Netflix. Si vous pensez que la Terre est plate, vous pouvez passer toute la journée sur YouTube et Netflix avec uniquement des documentaires qui vous confortent dans l'idée que la Terre est plate. C'est devenu extrêmement facile de se convaincre que la Terre est plate. C'est le biais du marché cognitif identifié par Gérald Bronner dans son théorème du marché cognitif. Enfin, il faut considérer les tentations d'un certain nombre d'États de refermer les portes d'Internet avec cette expérience qui va être menée dans quelques semaines en Russie, lorsque la Russie va entreprendre de se couper totalement d'Internet dans la perspective qui est celle d'une possible guerre dans quelques années. N'oublions pas que la première action qui a été menée en termes de propagande en 1914 par la propagande britannique, a consisté à couper le câble sous-marin télégraphique qui reliait l'Allemagne aux États-Unis, à Cape Cod. De la sorte, la grande diaspora allemande aux États-Unis, notamment des Trumpf qui sont devenus des Trump, la grande diaspora allemande aux États-Unis n'avait plus accès à une autre information que celle qui était filtrée par le Foreign Office et ses instruments de propagande. Donc, nous sommes de plus en plus dans un monde qui se ferme. Que font les propagandistes avec cela ? Les propagandistes s'appuient sur les filtres algorithmiques pour cibler l'action propagandiste auprès des individus. L'action consiste le plus souvent à cloisonner davantage les individus. Jacques Ellul écrivait « Plus il y a de propagande et plus il y a... » Non, c'est pas lui. « Plus il y a de propagande et plus il y a de cloisonnement. » Il s'appuie sur la force des liens faibles, c'est-à-dire le fait que nous sommes enclins sur Internet à accorder notre confiance à des individus que nous ne connaissons que indirectement. C'est ce qu'on fait dans la vie en général. Vous connaissez ma sœur, vous savez que je bosse à Sciences Po, votre fils veut entrer à Sciences Po, passez par ma sœur pour me contacter, etc. C'est la force des liens faibles. Mais sur Internet, cette force des liens faibles est décuplée. Et on fait beaucoup plus volontiers confiance à des gens que dans la vraie vie. Et on fait beaucoup plus volontiers confiance à des contenus qui sont partagés par des gens avec qui nous avons des liens d'amitié virtuels sur Internet. Cette force des liens faibles est un outil absolument extraordinaire pour les propagandistes. De même que la polarisation qui a été étudiée par de nombreux auteurs, je n'ai pas le temps de développer, de même qu'une des caractéristiques du système technicien qui est l'ensauvagement, ce que Romain Badoit appelle la brutalisation d'Internet et qui se caractérise notamment par le fait que les contenus les plus violents sont ceux qui sont les plus viraux. Non seulement ils sont les plus viraux, mais lorsque vous ne vous abritez pas derrière un pseudonyme, lorsque vous avez votre propre identité sur Internet et que vous vous montrez violent, vous apparaissez plus crédible que si vous n'êtes pas violent ou si vous êtes anonyme. C'est ce qui encourage, c'est une étude qui a été menée par des chercheurs à Zurich, et ce qui encourage une prime à l'agressivité dont profitent ceux que l'on appelle les trolls. Le troll est celui qui vient perturber une conversation, s'en prendre à quelqu'un brutalement sur Twitter. Twitter est le paradis des trolls. Et le troll cherche à dissuader un certain nombre de personnes d'intervenir dans le débat, de sorte de déséquilibrer le marché cognitif au profit du point de vue que vous souhaitez encourager. Au passage, généralement, les scientifiques se découragent rapidement, parce que à cette table, on n'a pas toujours beaucoup de temps à consacrer à des discussions sur Twitter avec des gens qui nous affirment que la Terre est plate. Bon. Enfin, nous estimons que ce n'est pas nécessairement notre rôle, ce qui est peut-être une erreur. En tout cas, c'est un point qui mérite d'être posé. Cass Sunstein, qui est un prof de droit à Harvard, a publié deux livres absolument fascinants sur ce sujet, La République électronique, où il faisait état de l'effet de polarisation du numérique sur la vie politique américaine dès le début des années 2000. Et puis en 2017, il a publié un livre dans lequel il montre qu'Internet, devenant plus sophistiqué, amplifie les menaces qui pèsent sur la démocratie, et en particulier en semant la division. Maintenant, quelle est la réponse apportée par les géants du numérique? Elle est toujours la même. Elle est de dire, au fond, vous vous trompez. Vous nous dites que Internet cloisonne davantage, mais regardez cette eau-forte de Félix Vallotton en 1898. En 1898, déjà, les gens étaient collés sur leur journal. Souvent circule cette photo de Guy Gillette qui représente des gens dans un train à Westchester, près de New York, et on nous dit, bah, voyez, les gens étaient déjà... C'est pas différent des adolescents dans le métro parisien avec leurs écrans. Bon. Mais réfléchissons deux secondes à cette idée que c'est la même chose. Moi, je ne crois pas que ce soit la même chose. D'abord, l'écrit ne suppose pas le même effort cognitif que la vidéo qu'on va regarder sur YouTube. Bon. Et les cognitivistes nous alertent là-dessus. Ensuite, le journal ici ne va pas collecter des informations sur ses lecteurs. C'est d'ailleurs le grand problème de la presse. C'est la difficulté pour la presse à collecter des informations sur ses lecteurs, sans quoi les journaux s'en sortiraient mieux économiquement. Alors que le numérique collecte des informations. Le contenu de la page n'est pas personnalisé. Alors que les contenus des pages numériques sont tous désormais personnalisés. Ensuite, la publicité n'est pas une publicité ciblée individuellement. C'est la même publicité pour tout le monde. Enfin, il y a peu de chances que si vous lisez un journal républicain ou si vous lisez le Figaro dans les années 50, se faufile dans les pages du Figaro un article de manipulation en provenance du KGB. C'est peu probable. Alors qu'au XXIe siècle, la probabilité pour qu'un électeur républicain soit exposé à des publicités cherchant à la manipuler en provenance de la Russie est réelle. 126 millions d'Américains ont été exposés à ces publicités pendant la dernière élection présidentielle. Et il y a une dernière chose. Je parlais de la guerre froide. Pendant la guerre froide, le KGB cherchait déjà à semer la discorde chez l'ennemi, selon la formule de Sun Tzu. Le KGB cherchait à exacerber les tensions raciales aux États-Unis. Le KGB faisait appel à des agents infiltrés. Le KGB faisait appel à d'honorables correspondants. Le KGB arrivait à glisser des articles dans la presse ici et là, arrivait à convaincre un éditeur britannique de publier un livre très critique sur la ségrégation raciale aux États-Unis. Mais ça demandait énormément de temps, énormément d'argent, et c'était extraordinairement risqué pour le KGB de l'époque. Voici une manifestation qui a eu lieu à Houston le 21 mai 2016. 10 suprémacistes blancs, dont l'un qui était venu armé d'un fusil d'assaut AR-15, et quelques dizaines de contre-manifestants devant un centre islamique. Cette manifestation a été organisée par le FSB, l'équivalent du KGB, c'est-à-dire le service de renseignement russe. Comment ? $200 de publicité sur Facebook. $100 pour inventer une fausse manifestation de suprémacistes blancs et convaincre l'un d'eux de venir avec une arme, et $100 pour organiser la contre-manifestation. Bon, quelque part, il est rassurant de voir que les contre-manifestants sont plus nombreux que les manifestants. Mais vous voyez bien le problème ici. L'impunité totale, le coût dérisoire de cette manipulation qui a eu un effet médiatique gigantesque. Il y a eu un effet dans la presse à ce moment-là. Nous sommes en présence de quelque chose de tout à fait nouveau et, de mon point de vue, d'extrêmement dangereux pour nos démocraties. Ensuite, autre paradoxe. Plus nous avons le sentiment de nous émanciper par la technologie et plus nous en devenons prisonniers. Le mythe social de l'émancipation par la technologie est l'un des plus puissants mythes développés au XXe siècle. Il l'a été notamment par Apple dans cette célèbre publicité de 1984 pour le Macintosh. Et ce mythe est celui, au fond, pour paraphraser Kant, d'une sortie de l'état de minorité, le numérique nous aidant à devenir des citoyens adultes, responsables, dotés d'un esprit critique surpuissant. Et force est de constater que c'est tout le contraire. Je considère pour ma part que le numérique nous réduit, pour paraphraser à nouveau Kant, à l'état de minorité. Comment le numérique nous réduit-il à l'état de minorité ? D'abord par tous les dispositifs de micro-persuasion qui sont utilisés, qui relèvent souvent du conditionnement opérant, pour paraphraser Burrhus Skinner, qui a été le théoricien du conditionnement opérant dans les années 1950. Il y a partout sur nos écrans des dispositifs de micro-persuasion, notamment dans tous ces dispositifs d'objets connectés qui sont là en principe pour nous faciliter la vie. Le podomètre qui nous dit combien de pas on fait chaque jour et qui nous adresse des compliments. La balance connectée qui nous dit qu'il faudrait faire un effort ou qu'au contraire, bravo, vous avez perdu du poids. Les notifications, les lumières, les vibrations, les rappels qui agitent en permanence nos smartphones et qui aspirent le temps en même temps que l'attention de l'utilisateur. C'est ce que le philosophe Eric Sadin appelle la gouvernementalité numérique, en référence à la gouvernementalité telle que définie par Michel Foucault, c'est-à-dire une forme de gouvernementalité ou de gouvernement des conduites. Michel Foucault écrivait de conduite des conduites, une forme de conduite des conduites qui est inscrite dans les logiques de marché et qui est inscrite dans une multitude d'outils à notre disposition. Michel Deleuze parlait d'une société de contrôle en 1990. Nos assistants personnels relèvent souvent d'une forme de propagande. Je ne sais pas si je vous l'ai mis. Non, je l'ai oublié. Si, il est là. Non, avant ça. Il y a le nudge. Ce que l'on appelle le nudge. Le nudge, c'est à la fois la petite tape sur l'épaule. « Hé, tu devrais faire ceci. » Et le petit coup de pouce. « Allez, tu osais pas trop jusqu'à présent, mais vas-y. » Ce nudge qui est d'essence paternaliste libertaire, c'est-à-dire que ce sont des théoriciens économistes de l'école de Chicago qui, prenant acte du fait que le consommateur rationnel n'existe pas vraiment, on cherchait à réinventer l'argent rationnel par des dispositifs qui conduisaient les individus librement à choisir de faire ce qui était jugé bien pour eux. Par exemple, manger 4 ou 5 portions de fruits et légumes par jour, faire de l'exercice, comme ici à Lyon, prendre l'escalier plutôt que l'escalator en décidant « ta bonne santé est au bout de cet escalier ». Nous sommes, avec le nudge, en présence de quelque chose de tout à fait intéressant, dont les résultats méritent d'être étudiés avec soin. Il existe quelques petits dispositifs très, très intéressants. J'aime beaucoup, pour l'anecdote, cette montre qui s'appelle Pavlok, en référence à Pavlov. C'est une montre qui est un assistant personnel. Vous fixez vos objectifs, par exemple, je veux me lever tous les matins, je veux me lever tôt, ou je veux faire de l'exercice, je veux marcher 1000 pas. Et puis, si vous ne marchez pas 1000 pas, vous avez une décharge électrique. Et c'est ce qui est fascinant avec le numérique. C'est qu'on accepte des choses qu'on n'aurait jamais accepté autrement. Si je vous dis, mettez ça dans votre poche, Ça permet en permanence de savoir où vous êtes, ça permet de vous écouter en permanence, ça permet de savoir qui vous êtes, ce que vous achetez, avec qui vous conversez. Ça, vous diriez non. Et si je vous dis, mettez ça dans votre poche, c'est sympa, c'est à la mode, et en plus, vous pouvez aller sur Internet, tout le monde le met dans sa poche. C'est-à-dire que nous trouvons une utilité dans ces objets qui nous fait dépasser la considération du danger que ces objets représentent au quotidien pour notre liberté en tant qu'être humain. Il y a quelque chose qui relève aussi de ce que ces auteurs ont appelé le web affectif, c'est-à-dire que nous vivons dans un monde numérique qui est un monde d'économie numérique des émotions, avec un design émotionnel, avec l'exploitation de nos émotions. C'est pas pour le plaisir que Facebook a mis des émoticônes. Facebook avait un certain nombre de difficultés. Il avait beaucoup de mal avec les gens comme moi qui pratiquent le second degré. C'est très dur d'éduquer une intelligence artificielle au second degré. Donc, il y a besoin d'un émoticône qui signale le second degré pour aider l'intelligence artificielle à comprendre que l'utilisateur fait une blague. Facebook est très attentif à la diffusion des émotions sur son réseau parce que le modèle économique de Facebook repose sur notre bonheur et donc sur le fait d'agir sur la viralité des contenus pour réduire la viralité des contenus négatifs et accélérer la viralité des contenus positifs. Vous pouvez être sûr que si vous annoncez vos fiançailles ou votre mariage, là, 100% de vos amis sur Facebook le verront. Si vous annoncez un deuil, moins de 10% de vos amis le verront, pour ne donner que cet exemple. Il y a aussi ce qui relève du behavior design, c'est-à-dire du design des comportements. C'est une expression que l'on doit à B.J. Fogg, un psychologue comportementaliste qui a fondé à Stanford le Behavior Design Lab et qui a publié un livre dans lequel il a modélisé cela à travers le BMAT, Behavior égale Motivation Ability Trigger. Autrement dit, l'idée qu'un comportement sur Internet se produit lorsque sont réunis au même moment la motivation, la capacité et un déclencheur. Et c'est le graal du designer sur Internet. C'est le graal de l'inventeur du like. C'est le graal de celui ou celle qui conçoit les nudges sur un certain nombre de dispositifs sur Internet. Nous sommes dans une gestion de nos émotions à des fins de manipulation, mais une manipulation qui, en l'occurrence, est une manipulation à des fins purement et bassement économiques. Enfin, il faut considérer le fantasme du biocontrôle. Au XXe siècle, des dizaines de chercheurs dans le monde ont cherché à contrôler le cerveau des êtres humains. C'était le grand rêve de la CIA dans ses programmes secrets MK-Ultra entre 1953 et 1970, avec des dizaines d'expériences toutes plus dingues les unes que les autres, et au final, un constat d'échec. Non, on ne peut pas convaincre un tueur avec un mot-clé de tuer Fidel Castro. Non, on ne peut pas déclencher le désir amoureux à distance électroniquement. Enfin, on a tout tenté dans les années 60. Non, on ne peut pas. Mais ces espoirs ont rejailli au début du XXIe siècle. Et je dois dire qu'un des articles qui m'a le plus perturbé ces derniers temps a été publié très récemment dans la revue Science, le 4 février 2019, lorsque très fièrement une équipe chinoise a annoncé avoir réussi à contrôler à distance le cerveau de rat en connectant deux cerveaux. C'est très simple, vous avez une interface avec l'ordinateur a une interface avec des électrodes posées sur le rat, et la personne que vous voyez ici qui contrôle les mouvements du rat à distance. Et les auteurs considèrent que qu'il est possible de l'étendre à l'homme, sachant que la Chine, comme vous le savez, ne se caractérise pas par son respect fondamental des droits de l'homme, mais la question de l'éthique, en l'occurrence, passe après les considérations géostratégiques, avec l'obsession qui est l'obsession de la Chine, qui est de générer un homme nouveau, un Chinois nouveau, plus intelligent, plus fort et peut-être aussi plus grand. En tout cas, générer un homme nouveau. Nous sommes à la veille de la possibilité de ce que l'on appelle communément le biohacking. Nous en sommes d'autant plus près que Facebook, parmi ses brevets, une de mes passions est dépouiller les brevets de Facebook, a déposé un brevet pour qu'on pose sur notre tête quelque chose qui nous permette d'interagir avec l'écran. C'est-à-dire que la prochaine interface, après l'interface vocale entre l'homme et la machine, sera l'interface directe entre notre cerveau et la machine, avec la faculté de... Là, je dois faire ça, je dois titiller le mulot, comme dirait Jacques Chirac. Et demain, je pourrais faire la même chose uniquement avec la force de mon esprit. Je pourrais, en vous regardant par reconnaissance vocale, avoir votre biographie qui s'affiche, ce qui est pratique quand vous avez, comme moi, du mal à reconnaître les gens et à vous souvenir de leur nom et de leur prénom. C'est extraordinairement pratique. Donc tout le monde va adopter ce dispositif. Et Mark Zuckerberg, vous allez me dire que je délire, mais Mark Zuckerberg, il y a quelques jours, non, quelques semaines, à Harvard, dans une interview de 2 heures qu'il a donnée, a répété que l'une des choses qui le fascinait le plus, c'était l'idée d'arriver à ça. C'est-à-dire nous brancher quelque chose sur la tête pour nous offrir une meilleure expérience du monde, rendre le monde meilleur, et accessoirement, aller prendre les ultimes données que nous ne donnons pas à Facebook, celles qui sont directement dans notre cerveau, par l'activité de nos ondes cérébrales. Au passage, Facebook n'est pas le seul sur le marché. Y compris une start-up française qui a lancé un bandeau pour nous aider à dormir avec une synchronisation des ondes cérébrales. Bon, bref. Enfin, je termine. Plus il y a de communication numérique et plus il y a de conflits. Et ça, c'est contre-intuitif. Pendant longtemps, on a vécu avec l'idée que plus il y avait d'échanges entre les individus, et moins il y avait de risques de guerre. Vous savez, cet adage... commerce avec un autre pays limite la... C'est plus qu'un adage, ça se vérifie empiriquement, historiquement. Or, le numérique apparaît désormais comme le facteur d'une rupture géostratégique majeure, la multiplication des conflits sous une forme nouvelle. Et ce, en raison de ce qu'il convient d'appeler le pouvoir égalisateur du numérique. On employait l'expression de pouvoir égalisateur jadis à propos de l'atome et du nucléaire, en disant que... Le nucléaire offrait à la France, par exemple, un pouvoir égalisateur, parce qu'on était une puissance moyenne, mais grâce à l'atome du général de Gaulle, on pesait sur la face du monde, on était l'égal des États-Unis, parce qu'on avait une capacité de dissuasion. C'était une arme dissuasive. C'était une arme de dissuasion du faible au fort. Aujourd'hui, le numérique est une arme de dissuasion du faible au fort. Aujourd'hui, le numérique est pour la Russie une arme de dissuasion du faible économiquement et encore plus. Militairement au fort, les États-Unis. Or, le pouvoir égalisateur du numérique pousse au conflit. Parce qu'il est difficile d'attribuer l'origine d'une attaque numérique, parce que le numérique permet des attaques à faible coût. Pour vous donner une idée, les estimations les plus sérieuses sur le montant des dépenses du Kremlin pour influencer l'élection présidentielle de 2016 est de 100 millions de dollars. Titre de comparaison, la campagne de Donald Trump, c'est $1 milliard. L'opération Cambridge Analytica, ça n'a pas coûté plus de $20 millions, ce qui, à l'échelle d'une campagne américaine, est rien. Et enfin, il y a capacité de ciblage. Ce rapport coût-efficacité de l'action numérique encourage les actions. Ça permet à des États tels que l'Iran de peser sur la scène internationale. Que l'Iran ne pourrait pas faire aussi facilement autrement. Et ça, Jean-Louis Gergorin, dans son livre récent « Cyber, la guerre permanente », le démontre de façon extraordinairement convaincante. À l'ère des réseaux numériques, nous assistons à une numérisation et à une militarisation de l'information qui repose sur 2 principes fondamentaux. Le premier est de protéger sa sphère informationnelle. On voit qu'en Chine... ça consiste à mettre une grande barrière numérique. On voit qu'en Russie, c'est un peu la même tentation, en même temps qu'il y a un contrôle vertical de l'ensemble des systèmes d'information. La Russie a inventé la notion de sphère informationnelle pendant l'époque soviétique, et cette notion de sphère informationnelle est extrêmement importante pour nous, dans la mesure où elle inclut aussi bien les contenus numériques que les contenants. Et c'est une réflexion, au fond, globale sur le numérique. On ne se penche pas simplement sur les contenus, comme on a tendance souvent à le faire. Donc on protège sa sphère informationnelle. Et dans nos régimes démocratiques et libéraux, on protège, on cherche aussi à protéger la sphère informationnelle, différemment. c'est par la voie légale et par des mesures qui apparaissent bien souvent liberticides. Il s'agit d'essayer de réguler les acteurs du numérique, de réguler Facebook, de réguler les algorithmes, pour si tant est qu'on puisse le faire. Il y a une tentation très forte de se refermer, de refermer les frontières. Et en même temps, il s'agit d'agir, d'intervenir dans la sphère informationnelle de l'étranger. Je me suis amusé à prendre des captures d'écran de ce dispositif qui actuellement est en train d'être revu. Ce dispositif, ce dashboard qui permettait de suivre l'actualité, l'activité d'un certain nombre de comptes Twitter reliés à la Russie, émanant de ce que l'on appelle des bots, c'est-à-dire des logiciels de persona management qui gèrent des personnalités, des profils numériques créés de toutes pièces, qui sont de plus en plus difficiles à détecter. Et là, en l'occurrence, vous voyez que quand il y avait une manifestation des Gilets jaunes, ces bots russes relayaient à fond cela, parce que cela participe d'une stratégie qui est la stratégie de la division à l'intérieur des sociétés occidentales et plus généralement de tous les adversaires de la Russie, en exacerbant les divisions, les tensions, en mettant en valeur la violence dans ces sociétés. Ce n'est pas le propre de la Russie. La guerre de l'information, l'infowar, a été théorisée par les États-Unis dans les années 1990, a été aussi concrétisée au sein du GCHQ, comme le montre ce document qui a fuité, avec les 4 D, deny, disrupt, degrade and deceive, c'est-à-dire détruire, nier, dégrader et perturber. C'est la tactique adoptée désormais par toutes les armées du monde qui mènent une guerre de l'information qui est désormais entièrement intégrée au dispositif de guerre. Jadis, la guerre, c'était d'une part les opérations militaires et d'autre part le renseignement. Bon. C'était les deux branches. Et puis, accessoirement, on pouvait faire appel à la propagande, mais qui était souvent en marge. Désormais, dans toutes les armées, les plus grandes armées du monde, à la suite de la Russie, désormais, la propagande est pleinement intégrée à ce dispositif. Elle participe des opérations militaires dans ce que l'on appelle désormais une guerre hybride. Bref, en conclusion, je crois que nous sommes en passe d'assister à une cybernétisation du monde, c'est-à-dire à ce moment où la cybernétique est en passe de devenir une réalité et de conduire à une propagande automatisée de plus en plus dangereuse et néfaste. Je vous rassure, il reste encore quelques possibilités d'y échapper. Elles sont maigres. La première possibilité pour y échapper, c'est de revaloriser l'humain. Et revaloriser l'humain, c'est à tous les stades. Revaloriser la formation critique, bien évidemment, face au contenu sur Internet. Revaloriser le rôle des humains dans la production de l'information. Il faut défendre nos journalistes. Il y a un journaliste sur deux a été viré aux États-Unis depuis le début des années 2000, en particulier dans les rédactions. À partir de là, est-ce que nous allons laisser l'information être produite par des robots? C'est la question qui se pose aujourd'hui, en 2019. De plus en plus d'informations sont produites par les robots. Les résultats électoraux, les résultats sportifs, les résultats boursiers sont traités aujourd'hui par des algorithmes d'intelligence qui sont gérés par des systèmes d'intelligence artificielle. Demain, l'ensemble d'un journal pourrait être rédigé par des robots. Est-ce que nous allons laisser faire ça? Est-ce que nous allons laisser aussi l'argent dicter la conduite de nos vies politiques? Parce que le mal est là, l'origine du mal est là, dans le fait que, comme l'a montré Julia Cagé dans un ouvrage récent, Le prix de la démocratie, l'argent pèse de tout son poids dans la détermination des politiques qui sont menées et conduit à encourager ce que l'on voit aux États-Unis, ce que l'on voit au Brésil, ce que l'on voit en Hongrie, ce que l'on voit en Italie, à savoir le fait que des intérêts économiques pèsent de tout leur poids dans la fabrication, non seulement de l'information, mais ce qui est plus dangereux encore, à mes yeux, de la science, puisque les programmes européens de recherche, désormais, tendent à être infiltrés, si j'ose dire, par les lobbies de la grande industrie. Comme l'a montré la journaliste du Monde, Stéphane Aurel, dans ce livre que je vous recommande également, qui s'appelle « Lobbytomie », qui est en même temps un des plus déprimants de tous ceux qui ont été publiés récemment. Enfin, il est important d'encourager le renouvellement de notre sphère informationnelle, autrement dit, d'en revenir à ce que l'on a connu pendant plus d'un siècle, c'est-à-dire un espace partagé, une sphère critique, un espace public. Il est vain de lutter contre les phénomènes de personnalisation. En revanche, il est possible de faire ce que l'on a fait au XIXe siècle, c'est-à-dire de constituer au-delà de cette ultra-personnalisation de l'individu dans sa sphère communautaire, philosophique, religieuse, etc., de constituer un espace plus grand, ce que Gabriel Tarde a appelé la fusion de l'opinion publique en opinion nationale, c'est-à-dire la capacité à disposer d'informations partagées avec des faits sur lesquels on s'entend, puisque aujourd'hui, vous savez qu'à l'ère de la postvérité, on ne s'entend plus sur les faits, on adopte une posture politique et on adopte ensuite les faits qui vont avec. Voilà, je crois que j'ai été trop long. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais c'est un sujet qui, vous l'aurez compris, me passionne.
Voilà, j'allais dire long, mais passionnant.